Le 21 mars dernier à Nantes, l'association BPV, une béquille pour la vie, fêtait ses 1 an d'existence. Des membres de Case Rebelle étaient présents à cet événement, à l'occasion duquel nous avons interviewé le président Bruno Lobé, militant anti-panafricain. Voici d'abord une brève présentation de BPV et de ses projets autour du handicap en Afrique, et quelques mots de 2 autres membres de l'association, Marie-France Piès et Matanga Touzolana. Ensuite, Bruno revient sur son enfance en République démocratique du Congo et sur les conditions matérielles des personnes en situation de handicap physique en RDC. Il nous parle aussi de son ancienne activité de commerçant entre Kinshasa et Brazzaville et des conditions de travail des commerçants Andy de Beach Ngobila, précisément.
Je me présente Bruno Lobé. Je suis né en 1980 à Kinshasa, père de famille. Je suis arrivé en France en 2007. Dès mon arrivée, quelques mois plus tard, j'étais déjà engagé à l'Association des paralysés de France. Au bout d'un an, j'étais élu conseiller départemental de l'association. Donc, j'ai resté 3 ans, j'ai été réélu, mais comme j'avais d'autres ambitions, donc j'ai arrêté et puis j'ai créé l'idée de créer l'association. J'en avais déjà, l'idée de créer BPV. Donc c'était juste le temps qui n'était pas encore convenable. Et dès que j'ai senti qu'il fallait m'engager, donc j'ai créé l'association. L'objectif de l'association, c'est d'améliorer le quotidien des personnes en situation de handicap en Afrique. C'est-à-dire, déjà quelqu'un qui n'a pas de matériel, il est limité. Il peut avoir des projets, il peut avoir des ambitions, mais s'il ne peut pas faire 5 km, ces projets-là n'aboutiront jamais. Donc nous, notre objectif, c'est de donner d'abord, en commençant par donner des matériels, que les personnes puissent avoir la mobilité, l'autonomie. Après, passer à la deuxième phase, créer des centres pour des jeunes, les soutenir, faire des études, donner des formations professionnelles et les aider, pourquoi pas, à créer des entreprises. Normalement, le premier voyage, le premier projet, c'est d'aller au Congo. Donc, je vais me justifier d'abord parce que c'est pas parce que je suis congolais, mais c'est parce que j'ai grandi là-bas, je connaissais du monde, j'ai milité, il y a la facilité d'avoir des contacts et à m'organiser. C'est vraiment ça la raison. D'ailleurs, c'est parce qu'aussi on a déjà commencé à travailler avec un groupe de 102 personnes dans une région des Bandundu, quelque part en République démocratique du Congo. Mais on a des contacts au niveau de l'Angola, on a des contacts au Cameroun et au Burkina Faso, donc pour l'instant. Mais ce sont des projets à long terme, parce que déjà pour avoir des matériels, c'est pas facile, c'est pas évident. On est plusieurs associations à chercher des matériels. Et des matériels arrivent en point de goutte, on va faire avec. Mais c'est des gens qu'il faut toujours garder le contact, leur parler, leur donner, leur expliquer, leur donner aussi surtout l'espoir qu'on viendra. Ce n'est pas des paroles vaines, c'est pas on est là, on est en train de travailler justement pour qu'on puisse concrétiser les choses et aller faire du bien aux gens. Moi, j'ai dit aux gens, on n'est pas là pour collecter des matériels et envoyer, confier des matériels à un groupe de gens pour distribuer. Donc les gens seront là, d'abord, recenser des personnes qui sont dans le besoin. La personne qui est à Kinshasa, elle va organiser comment accueillir des matériels lorsqu'on va arriver, parce que les matériels partiront par la voie fluviale. Arriver là-bas, la personne serait là. Elle prépare l'endroit où on va stocker le matériel avant qu'on distribue. Après, la personne continuera à faire le suivi des personnes pour que les personnes ne se dispersent pas pour la deuxième étape du projet.
Je suis Marie-France Piès et je suis secrétaire de l'association Une béquille pour la vie depuis mai 2014. J'ai eu connaissance de l'association grâce à Facebook, parce que le président, c'est un ami, et puis j'ai vu qu'il a créé une association, et puis je lui ai demandé de m'en dire plus, et puis il me fait, ben justement, il a besoin de monde, et puis comme j'ai beaucoup fait de bénévolat en secrétariat pour d'autres associations, donc j'ai dit pourquoi pas, il m'a proposé le projet. Et maintenant, ben, on avance petit à petit dans cette aventure qui n'est pas facile parce que ben, la conjoncture fait que ben, les gens donnent, mais pas autant qu'on voudrait. Et puis, c'est un challenge, comme je dis, de par qu'on soit caribéen ou africain en France. Malgré tout, il y a toujours cette opposition entre la différence de l'un et de l'autre. Donc ça, c'est une différence dans la différence. Et oui, c'est mon combat. C'est remettre les pendules à l'heure, en fait. Je suis d'origine martiniquaise et guadeloupéenne d'adoption. Donc à la base, je suis musicienne. Je joue d'un instrument de musique qui s'appelle le chacha, dans un groupe de groka, guacanca d'ailleurs. Et puis, donc, j'ai toujours eu cette fibre, c'est inné, j'ai toujours été attirée par cette racine africaine, de par déjà le tambour. Et puis là, j'ai eu cette opportunité d'être avec l'association Mbeki pour la vie. Donc, effectivement, je ne connais rien du tout à l'Afrique, en fait. C'est par rapport à ce que les médias disent, ça n'a rien à voir. Quand on côtoie vraiment des personnes ayant vécu sur place, on constate que ben il y a beaucoup de mensonges, de choses cachées, des orientations bien ciblées pour faire croire que l'Afrique est si en famine, si malheureuse. Je dis pas qu'il y en a pas, mais il y en a pas autant qu'on voudrait nous le faire croire. Et du fait d'avoir côtoyé justement cette association qui a en son sein plusieurs pays d'Afrique, ça nous permet justement de revaloriser cette Afrique qui souffre.
Je m'appelle Matanga Tuzolana. Je suis arrivé dans l'association il y a un an. Et en fait, moi, je me charge de tout ce qui est mise en ligne d'information de l'association. Donc, je suis le webmaster de l'association. J'ai créé le site et là, j'essaie de l'alimenter tant mieux que mal avec le peu de temps que je dispose. Donc, voilà. C'est ça, en fait, mon rôle principal dans l'association. Je suis un peu dans l'ombre. Déjà, c'est par le principe d'aider son prochain. C'est ce qui m'a plus motivé. Et je fais partie de plusieurs associations qui sont à but non lucratif et humanitaire. Et je fais le même boulot, c'est-à-dire mettre l'association sur le site, sur Internet en fait. Donc c'est plus ça qui m'a motivé, aider mon prochain et essayer d'apporter le petit grain de sable dans ce qu'on construit sur cette terre. Moi, en fait, en Afrique, j'ai milité plutôt pour le droit de l'homme au Congo, République démocratique du Congo. Pour les prisonniers, c'était en fait ce que je faisais avant, à part ma vie professionnelle. J'ai essayé de faire en sorte que les personnes détenues sans raison valable puissent avoir au moins à être jugées. Donc, c'était plus ça mon combat. Et j'ai aussi aidé d'une autre manière les enfants de la rue. Dans tout ce qui est éducation, l'alphabétisation et tout ça. Donc, c'était un peu ça ce que je faisais en Afrique avant. Mais le monde de l'handicap, je connais moins. Au niveau des prisonniers, on avait un collectif d'avocats, des jeunes avocats, plus précisément des étudiants, parce que moi, j'étais étudiant à l'école d'ingénierie. Donc, des collègues avec qui on joue au foot ensemble. Donc, on a créé une sorte de... C'était pas une association parce que c'était pas officiel, mais c'était contre nous. On essayait de voir plus ou moins dans des prisons des personnes qui ont besoin d'aide, qui n'ont pas d'argent pour payer un avocat. Et eux, en tant qu'étudiants, ça leur faisait un stage et tout. Donc, on essayait de voir dans quelle mesure aider les personnes qui étaient détenues abusivement. Et ça portait ses fruits. On n'a pas eu mal de soucis. Voilà, surtout que c'est une action qu'on a menée juste après l'assassinat de l'ancien président Laurent Désiré Kabila. Et du coup, il y a eu beaucoup de répression à notre niveau. Et voilà, donc on a été un peu persécutés pour ce qu'on faisait parce que c'était vu comme si nous étions en train de défendre des personnes qui sont contre le gouvernement. Donc voilà. C'était un peu ça. Je ne peux pas en dire trop. Je connaissais Bruno avant dans d'autres associations, Apport Collectif, Congrès Solidarité, FC Boboto. Donc on a fréquenté plus ou moins les mêmes associations. Et quand il m'a parlé de son association, il y a 3 ans de cela, ou 4 ans si je ne me trompe pas, j'ai l'aidé plus ou moins à structurer l'association et savoir plus ou moins qu'est-ce qu'il faut faire, les démarches à faire et tout ça. Donc, tout ce qui est administratif, je l'ai un peu soutenu dans ce sens-là. Et comment contacter les autorités et tout ça. Donc, voilà. Pour l'avenir de l'association, comme toute association, j'aimerais bien que tous les projets qui sont en cours d'élaboration puissent voir jour prochainement. Et que ça puisse se réaliser et qu'on puisse aller de l'avant, comme je le souhaite dans toutes les associations que je soutiens.
Je suis né à Kinshasa, comme j'avais dit. J'ai attrapé la polio à l'âge de 2 ans. Donc j'avais encore 2 ans. C'était un matin comme ça. J'ai couru comme tout enfant de 2 ans. Et puis un matin, je ne pouvais plus. Mes parents, ma mère surtout, elle a crié que c'était des caprices d'enfant. Pardon. Elle a même, elle m'a donné quelques claques. Oui, allez, fais-toi, ceci, cela. Parce qu'elle me prenait en fait, elle me donnait le bain. Et puis au bout de quelques minutes, elle a compris qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Tout à coup, elle a arrêté, elle m'a emmené chez le médecin pour faire des diagnostics. Et puis le résultat est tombé que j'étais atteint de la polio. Donc depuis ce jour-là, je ne marche plus. Donc je ne peux plus marcher. D'ailleurs, moi-même, je n'ai pas de souvenir si j'avais marché ou pas. À l'âge de 2 ans, on ne se souvient pas, on ne se souvient presque à rien. Donc j'ai construit ma vie comme ça. J'ai eu la chance d'avoir une grande famille. Mon père a eu plusieurs femmes et plusieurs enfants. Donc, je suis né dans une famille recomposée et polygame à la fois. Donc j'ai eu la chance d'avoir cette belle famille. J'étais très entouré, bien aimé, mais pas chouchouté. Donc on m'a fait grandir comme tous les enfants. Tout ce que mes frères et sœurs faisaient, donc j'étais obligé de le faire. J'avais mon tour à faire le ménage, j'avais mon tour à faire la vaisselle, j'avais mon tour à faire la lessive. Et quand je faisais des conneries, j'étais aussi puni comme tous les enfants. Donc après, c'est que j'ai quand même failli, j'ai failli de passer à quelque chose de très important, donc, c'est-à-dire l'école. Parce qu'à l'époque, être en situation de handicap, on n'avait pas vraiment des considérations. Je peux dire que j'ai bénéficié, je disais tout à l'heure que j'ai eu la chance d'avoir une famille qui, j'étais bien entouré, bien aimé. Mais il y avait quand même des différences sur la considération. Il y avait des privilèges, des choses que je n'étais pas privilégié. Donc malheureusement pour ce point-là, quand même... Je ne sais pas si je vais dire, Dieu m'a fait une grâce. J'ai appris à écrire et à lire à la maison, sans aller à l'école, sans fréquenter, sans faire l'école. Donc j'ai appris à écrire et à lire à la maison, juste en assistant à des jeux des classes. Parce qu'à l'époque, les enfants, en rentrant des classes, on était tous assis sous l'arbre. Et on avait un grand frère qui jouait les professeurs et tous les enfants... des élèves. C'était en Lingala à l'époque et c'est en jouant ces jeux que j'ai appris à écrire. Alors un matin, je me suis réveillé, j'ai commencé à écrire tout seul dans la portail des chez nous. Et puis ma grande sœur m'a vu, elle était très étonnée. Elle a dit, mais pour quelqu'un qui n'a jamais été à l'école, écrire comme ça, il faut qu'on lui donne sa chance. Elle a discuté avec mon papa et puis l'année suivante, si j'étais inscrite, d'ailleurs, j'ai commencé directement à CE2, si j'ai un bon mémoire, et à leur grand étonnement, j'étais que parmi les deux premiers. Donc, ça m'a encore réconforté, m'a encore donné du courage. Et l'autre chance que j'ai eue, j'ai fait l'école normale. Donc, c'est-à-dire l'école, pas d'école spécifique handicapée, machin. C'est vraiment l'école comme l'école normale, avec les enfants valides et tout. Et j'étais entouré que des amis valides. Je ne connaissais pas des handicapés. J'aime pas cette expression des handicapés. Donc, je ne connaissais pas des personnes en situation de handicap. Je ne les rencontrais pas. D'ailleurs, par hasard, quand je jouais avec des amis dehors, quand je voyais des personnes en situation de handicap, je fuyais en fait. J'allais me cacher en attendant qu'ils passent inconsciemment. Et en grandissant, j'ai fait quand même l'école sur les dos de mon entourage. Mes cousins, mes cousines, frères et sœurs qui me transportaient sur le dos pour aller à l'école jusqu'au lycée. Que j'ai eu mon premier tricycle, ce n'était pas des fauteuils roulants, c'était des tricycles. Je me souviens bien, on est parti en vacances des Nouvel An, Noël, machin, et quand on est rentré en janvier, j'étais avec les tricycles, c'était une grande fête à l'école. Les préfets, les directeurs, les professeurs, les élèves, tous sont venus me féliciter, m'embrasser. Moi-même, j'étais très ému. Et je pense que c'est là aussi que j'ai pris conscience que j'ai passé à ma deuxième phase de vie. Et j'avais compris que oui, j'étais heureux, mais je ne vivais pas encore. Parce que je n'étais pas libre, j'étais dépendant. Ce jour-là, j'ai compris que j'étais une personne et que j'allais maintenant m'engager à construire une vraie vie. Quand j'ai eu mon bac, j'avais des ambitions de continuer mes études supérieures et tout. Sauf que comme il y avait pas l'accessibilité, déjà l'accessibilité, je ne connaissais pas le mot. Je ne savais pas qu'est-ce que c'est l'accessibilité. Déjà pour aller m'inscrire, il n'y avait pas l'accès parce que le bureau où il fallait faire l'inscription était au deuxième ou troisième étage. Il n'y a pas d'ascenseur. Hein. L'ascenseur jusqu'à aujourd'hui, on va dire, on va pas s'y voiler la face. Il n'y en a pas encore assez dans nos pays africains. Donc, du coup, je me suis retrouvé en réalité. Donc, je ne pouvais plus continuer mes études parce que l'université, c'est des étages, des escaliers, des marches que je ne pouvais jamais emprunter en tant que personne en situation de handicap. Donc, je me suis lancé au commerce. J'ai créé une petite entreprise, un port-export entre Kinshasa et Brazzaville. Ceux qui connaissent les deux pays savent que c'est les deux capitales les plus rapprochées du monde, séparées juste par une fleuve. Donc je me suis lancé et là j'ai rencontré qu'il y avait des centaines et des centaines de personnes en situation de handicap qui traversaient déjà pour aller vendre quelque chose et essayer de survivre. Au départ, j'étais dépaysé. J'étais un peu dépaysé, j'étais perdu à la fois par peur de voir plusieurs personnes en situation de handicap. J'avais tellement peur. C'est des gens qui viennent de partout, des gens qui viennent des différents endroits et qui chacun est élevé à sa manière. Et là où j'ai compris aussi que moi j'avais la chance d'avoir été gardé, élevé dans une famille. Parce qu'il y avait j'ai rencontré des personnes qui ont été rejetées du fait de leur handicap, mais par leur propre famille, qui ne voulaient pas avoir un enfant en situation de handicap et garder, héberger, voilà, élever un enfant handicapé. Donc ils étaient abandonnés, grandis dans la rue, sans éducation, sans suivi. Donc ils se sont battus dès l'âge de 2, 3, 4 ans et jusqu'à l'âge de 18 ans, 15 ans. Donc dans la rue, c'est pas facile. J'ai côtoyé des gens qui avaient des handicaps très lourds, qui faisaient peur. Moi-même, en tant que personne en situation de handicap, j'avais peur d'approcher ces gens-là, surtout qu'il y avait... C'est un peu un monde où... C'est la loi du plus fort qui régnait, en fait. Alors, pour aller vendre, quand tu as un client, tu vois les gens qui débarquent. Oh, non, non, vas-y, casse-toi. Et toi, il n'a pas des belles choses, viens chez moi. Voilà. Donc, c'est vraiment un monde où il fallait prendre du temps pour comprendre et accepter aussi, des fois, de devenir comme eux pour essayer d'exister, en fait. Moi, j'avais un tricycle, j'ai vu des gens qui faisaient des kilomètres et des kilomètres en fesses ou à quatre pattes. En 2007, j'ai arrêté mon activité. Non, même pas en 2007. J'ai arrêté mon activité en 2005. Donc, j'ai traversé Congo-Brazzaville, ville que je connaissais déjà. J'ai fait l'Angola. J'ai eu la chance d'aller vers la Namibie. J'ai fait un petit tour en Afrique du Sud. La seule chose qui m'a étonné, la même situation que j'ai vécue dans mon propre pays, à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Donc c'est la même situation pour les personnes en situation de handicap dans tous les pays que j'ai fréquentés. Donc des personnes en situation de handicap abandonnées à leur propre sort. Des personnes qui vivaient dans la rue, sans des matériels, sans assistance, que ce soit familial ou gouvernemental. Des personnes qui n'ont jamais fréquenté l'école. Des personnes stigmatisées et puis martyrisées. Quand je suis arrivé en France, j'ai dit, moi j'ai la chance, vraiment, cette chance, je la vis encore. Je ne vais pas le garder pour moi. Il faut que je fasse quelque chose pour des milliers de personnes qui vivent l'injustice en Afrique. Donc c'est vraiment la base de l'idée qui est venue pour que je crée cette association. Moi-même, j'étais déjà activiste, j'avais déjà dirigé l'association au Congo, mais mon passage à l'APF m'a beaucoup aidé. Donc j'ai partagé l'idée que j'avais depuis des années à quelques collègues tels que le trésorier John Meseketabeka, avec Martin qui est là aussi, on a beaucoup discuté. Ils étaient contents, ils étaient touchés déjà de l'idée. Martin qui est aussi en situation de handicap, c'est un Togolais, c'est un frère africain. Moi je ne vois pas les pays, je ne vois pas les nationalités, je vois d'abord les personnes africaines. D'institutions pour des personnes en situation de handicap. Il n'y a pas d'institution. Je sais qu'à l'époque, quand j'ai eu la polio, on m'a mené dans un centre de rééducation qui était payant, hein, qui était payant. Et ce n'est pas toutes les familles qui en avaient des moyens. Moi, mon père était commerçant à l'époque. Il avait une bonne situation. Donc, elle m'a mené pour que je sois rééduqué, en espérant que je pourrais au moins marcher avec des béquilles. Bon, ils ont arrêté aussi du fait que ça me faisait très mal. Surtout en rentrant à la maison, il fallait recommencer, être attaché dans des tables et tout. J'ai pleuré tellement qu'ils ont dû arrêter, dit bon, de toute façon, il ne remarchera plus. On ne va pas lui faire subir encore, donner des supplices. Donc voilà, ils ont arrêté. Moi, mon premier tricycle a été acheté à l'époque. J'étais même pas là. Quelqu'un qui marchait avec le tricycle, invalide, qui marchait avec le tricycle, et puis il a mis un truc pour quoi, à vendre, machin. Et une serre vraiment une sœur du quartier qui a vu le vélo, bon, on appelle ça vélo chez nous. Non, il a vu les tricycles et dit, mais non, on a un enfant qui est là, qui manque de fauteuil, il marche à même le sol. Viens, je t'amène chez eux, on va montrer à son papa, peut-être il va l'acheter. Il a présenté le fauteuil, ils ont discuté. Mon père n'avait pas, il n'avait pas les sous tout de suite. Ben, il a gardé quand même le tricycle chez nous. Pendant une semaine, on a trouvé les moyens et puis c'est comme ça que mon fauteuil a été financé. Mon tricycle a été financé. C'est vraiment mon père qui me l'a acheté et je le remercie beaucoup. Je n'oublierai jamais mes parents. J'ai eu des super parents, et des parents magnifiques. Et me donner la possibilité d'être autonome, d'avoir l'accessibilité, d'avoir l'autonomie, de pouvoir sortir tout seul, c'est la meilleure des choses qu'un parent puisse donner à son enfant en situation de handicap. Le commerce qu'on faisait, que je faisais à Kinshasa, quand je créais ma petite entreprise, donc on achetait des produits à Kinshasa, on allait vendre à Brazzaville, et au retour, on achetait des produits de Brazzaville pour venir vendre à Kinshasa. C'est là aussi, c'est aussi l'une des raisons qui m'a poussé de quitter mon pays, parce que on avait des subventions, surtout au niveau de la douane. On payait pas la douane. Oh, on payait un dixième de montant des marchandises qu'on avait. On payait un dixième. C'est une charte qui était signée depuis les années 70 avec le pouvoir des Mobutu et des associations des personnes en situation de handicap. Et puis, arrivé à l'époque des Kabila, où ils ont tout à fait banni, simplement banni. Annuler cette charte, et c'est ça qui ça nous a créé beaucoup de soucis. On n'en sortait plus parce qu'il fallait payer le billet, le ticket de marchandises, la douane, auto normal. Là, on s'en sortait plus. C'est un peu ça quoi. Et on traversait quotidiennement. Il fallait traverser quotidiennement, faire si la chance, faire au moins un voyage par jour, la journée. Et non, c'est un peu compliqué, c'est un peu pénible. C'est difficile à expliquer comme ça, mais il fallait le vivre pour comprendre que des personnes, pour pouvoir survivre, ils étaient prêts à tout. Par exemple, moi qui ai un fauteuil, je peux amener par exemple un bout petit de marchandises, des packs de boissons par exemple, pour aller vendre. Alors petit à petit, pour essayer de grandir, on va dire, on commençait à adapter nos tricycles ou nos fauteuils roulants. Donc, je vais chez nous, on les appelle les soudeurs. Donc, on va chez un professionnel qui travaille des matériels métaux ou métal, voilà, et commence à grandir. On va dire, aujourd'hui, on va casser là, on va rajouter des fers pour que je puisse amener 5. Et le lendemain, au fur et à mesure, on se retrouvait avec des caisses qui pouvaient embarquer vraiment des centaines et des centaines de kilos. Alors, pour s'adapter, on a engagé aussi des gens qui travaillaient avec nous. Quelqu'un qui, par exemple, par rapport au niveau de marchandises et des quantités de marchandises et de la grandeur des son tricycle, on peut engager 2, 3 ou voire 4 personnes qui seraient là le matin, ils viennent te chercher chez toi, vous allez au magasin pour acheter des marchandises, ils chargent. Pendant ce temps-là, toi, tu restes immobilisé sur ton matériel, et puis ils te poussent, vous arrivez au but, vous payez des frais portuaires, vous rentrez dans le bateau. Et là, c'est aussi très compliqué pour avoir une place, pour pouvoir passer, parce que c'est un monde, que ce soit des valides et des personnes en situation de handicap. Donc, il faut être plus fort pour avoir une place, pour être à temps. C'est un monde, c'est inexplicable. Il faut les vivre, en fait, pour comprendre. Donc c'est de cette manière qu'on traversait, on est arrivé là-bas. Il faut aller chercher des clients. Après, il faut... C'est vraiment une entreprise organisée d'une autre manière. Sur Internet, vous tapez Bichungobila, certainement vous aurez des informations et peut-être des histoires des personnes pour comprendre. Bichungobila, c'est le port de Kinshasa, en fait. Voilà. C'est là aussi que j'ai commencé à militer, parce que lorsqu'ils ont commencé déjà à menacer la charte qui nous donnait la subvention, donc on a commencé à militer, on a fait des démarches qui n'aboutissaient pas, et puis au bout d'un moment, moi j'ai mobilisé des gens, des personnes. Je dis, on va sortir dans la rue et faire attendre notre voix, parce que ce n'est pas normal. On ne bénéficie rien de l'État. On n'a pas d'institution, on bénéficie que dalle. Et là, on se débrouille par nos propres moyens. Justement, c'est grâce à cette charte qui fait qu'on ne paye pas assez de taxes. On payait quand même des taxes, pas assez, qui faisait qu'on bénéficiait quelque chose dans nos activités. Et on venait en fait de nous casser le marché, donc il fallait faire quelque chose. Et quand j'ai fait cette mobilisation, c'est ça qui m'a causé un peu beaucoup de soucis au niveau de l'État, parce que les gouvernements connaissaient un peu la réalité de chez nous. Et d'ailleurs, moi, à l'époque, je disais, on est des personnes handicapées, on ne va pas nous matraquer, on va peut-être nous disperser et puis essayer de dialoguer. C'était le contraire, parce qu'il y a eu des gens qui étaient mis en prison par rapport à cette démarche. Et moi, il fallait que je parte, je traverse le Brazzaville et puis continuer ma route Angola, Namibie, jusqu'à en arriver. En vrai, j'ai toujours été senti africain, mais moi, c'est vraiment en arrivant en France que j'ai pris conscience que j'étais africain et qu'il ne fallait pas me tromper. Il fallait pas... faire aussi quelque chose. Parce que quand je suis arrivé, je me sentais toujours africain. Mais le rêve de venir en Europe était aussi grandissant. Tellement grandissant. Et je me disais, il faut que j'arrive et puis vivre comme les Blancs. Ce qui n'est pas entre guillemets faux, parce qu'on a on nous a tellement soumis des années, voire des siècles à ces modèles là on est obligé, qu'on le veuille ou pas, un moment à suivre cette voie là mais les réalités, je ne veux pas aller plus loin, mais les réalités que moi je vécu ici, que j'ai vu encore ici, c'est ça vraiment qui m'a révolté, qui m'a poussé à émerger dans le panafricanisme. Parce qu'aujourd'hui, j'ai dit, il n'y a pas une voix qui sortira l'Afrique dans la galère, dans la manipulation, dans la situation qu'elle vit, ni d'été sans le panafricanisme, en fait. C'est la seule voie, c'est la seule solution pour que l'Afrique puisse trouver sa liberté. Pour moi, c'est ça. Déjà aujourd'hui, moi, quand je parle, donc deux fois, on est obligé de se présenter. Oui, je suis congolais, je suis guinéen. Mais moi, j'aime plus parler au nom de l'Afrique qu'au nom de mon pays. La solution ne viendra pas bah, on est Sénégalais, on va rester entre nous et puis trouver la solution de notre pays. On pourra rester des millions et des millions d'années dans cette situation, on serait toujours des esclaves. Parce qu'on est des esclaves. À l'heure actuelle, on est des esclaves. On subit. On exécute. Et c'est aussi mon deuxième combat. Moi, c'est mon deuxième combat et je ne les lâcherai pas parce que j'ai créé une association pour préserver ou sauvegarder les avantages de l'association. Non. Le panafricanisme est plus que mon association. Parce que dans le panafricanisme, on trouvera la solution de ce qu'on cherche à l'association. Voilà. Ce n'est pas dans le projet de l'Occident de donner à l'Afrique sa liberté, de laisser l'Afrique tranquille, de laisser l'Afrique faire sa vie, de se reconstruire. C'est aussi des chartes qu'ils ont signées en catimini depuis des siècles et qui continuera, qui serait exécutée par des générations et des générations occidentales. Moi, je me dis aujourd'hui, la personne, un gamin blanc, que tu vois dans la rue, que tu salues, qui te fait des coucous, qui te fait rigoler, c'est peut-être lui le futur bourreau de l'Afrique. Parce que s'il s'engage, une fois qu'il s'engage à la politique, une fois qu'il aura des responsabilités dans son pays, que ce soit l'Allemagne, je ne sais pas où, il va exécuter, il n'a pas le choix. Il y a déjà des choses qui sont bien établies. Lui, il serait là juste pour exécuter et faire continuer ces contrats-là qui ont été signés contre l'Afrique. Et les Africains, ils doivent comprendre ça. Aujourd'hui, nous, on doit faire pareil. On va se réunir, on va se souder, on va faire des projets communs pour contraindre, entrer en résistance. Parce que la meilleure solution aussi, c'est ça. D'ailleurs, c'est la première solution qu'il faut commencer, entrer en résistance, savoir dire non. Moi, je milite aujourd'hui, je sais que je vivrai jamais ou pas cette belle Afrique, cette Afrique heureuse, épanouie, développée, industrialisée, je ne les vivrai pas. Ça ne serait peut-être pas mes enfants. Ça ne serait peut-être pas les enfants de mes enfants, mais je sais que ça arrivera. Et bien, c'est à moi de faire à ce que cette génération-là qui viendra puisse vivre ce bonheur.
Cazrebelle remercie Bruno, Marie-France, Elisha et tous les membres de l'association BPV pour leur accueil chaleureux. Merci également à Doug Geoffroy et son groupe que vous avez entendu en introduction, ainsi qu'à Fufuma Love Minus, groupe de chanteurs sud-africains qui était également présent à l'anniversaire de BPV. N'hésitez pas à contacter l'association via leur page Facebook ou par leur site www.unebequillepourlavie.org. Cazrebelle, mai 2015.